Bulle et reportage, principe actif.
Bulle et reportage.
Je m'appelle Tiffaine D, j'ai à la fois ma casquette d'artiste, de dramaturge, de metteuse en scène, de comédienne féministe. Donc j'ai trois spectacles qui tournent beaucoup en France, en Belgique, au Québec, donc qui sont à la fois Contes à rebours, qui est une réécriture des contes de fées à sauce féministe. Un autre spectacle qui s'appelle La péril mortelle, où là je vais parler de la question du langage et du sexisme inscrit dans le langage, donc en particulier la masculinisation de la langue sous Richelieu, mais dans un monde inversé, où j'emmène tout le monde en matriarcat, dans un monde où les femmes dominent les hommes depuis la nuit des temps. Donc c'est un spectacle humoristique. Et puis j'ai un autre spectacle, celui-ci, qui a été écrit par une autrice qui s'appelle Fanny Raoul, et qui a écrit ce manifeste féministe qui s'appelle « Opinion d'une femme sur les femmes » au tout début du 19e siècle, et qui aurait pu être écrit la semaine dernière parce qu'il est très contemporain dans les thèmes qu'il aborde et la façon dont il les aborde. Et par ailleurs, j'ai aussi une casquette de militante féministe. Je suis militante depuis une douzaine d'années, à la fois dans des grosses associations de conscientisation, à la fois dans des associations de terrain. J'ai notamment été formée par le collectif féministe contre le viol, qui est une des associations les plus anciennes. Elle a plus de 30 ans et elle a le numéro d'appel national anonyme et gratuit pour les victimes et leurs proches ou les professionnels, le 0800 05 95 95, et qui fournit énormément des données et des chiffres qu'on a sur les violences sexuelles. J'ai aussi été formée par l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, qui est l'association de référence par rapport à cette question des violences sexistes et sexuelles au travail. Et donc j'ai aussi accompagné des victimes sur le terrain, et c'est aussi ça qui a permis de mieux construire mes spectacles et puis aussi mes formations, parce que j'ai une casquette de formatrice et de coach sur les sujets de l'égalité. Et donc c'est à tous ces titres que la cause fait partie de mon quotidien.
D'accord, et ben merci. Effectivement, l'aspect artistique de comédienne, l'aspect pédagogique dans vos spectacles de prévention contre les violences, finalement, de sensibilisation à toutes ces questions. Et voilà, par des conférences, des formations, comme vous l'avez dit, donc vous avez finalement un public très large, d'âge très varié.
Oui, tout à fait. Je suis amenée dans mon activité à la fois à jouer pour des adultes. Donc ça peut être vraiment tout public, comme ça peut être spécialement des femmes survivantes de violences masculines, ça peut être je peux être invitée par des collectivités, des entreprises, effectivement des syndicats, des universités, et puis ça m'arrive aussi très souvent de jouer pour des jeunes, donc soit collège, lycée, voire même à partir de la primaire. Mon spectacle Contes à rebours existe à une version pour les publics à partir de 6 ans. Et donc effectivement, c'est autant d'outils de conscientisation et de prévention des violences que je fais passer par cet outil de la culture.
Et justement, au sujet des violences, mais aussi des questions de santé plus généralement des femmes et des jeunes femmes, qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce que signifie être une femme et qu'est-ce que cela implique en termes de santé ? En termes de spécificité de santé pour les filles et les femmes?
Bah, effectivement, il y a beaucoup de spécificités lorsqu'on est une femme sur les questions de santé, puisque la santé est construite en grande partie, pareil pour les hommes. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que sur les traitements médicamenteux, on va d'abord faire les tests sur des patients et pas sur des patientes. Les amis que j'ai qui ont fait des études d'ostéopathie, par exemple, ou de kinésithérapie, vont faire leurs études sur des squelettes avec une morphologie de base qui est celle des hommes, alors qu'en fait, après, elles vont davantage soigner les femmes. Ça, c'est symptomatique d'une façon de voir la médecine qui, en fait, in fine, part du principe que, c'est comme en langue française, quoi, masculin est censé être neutre, ben là, c'est pareil. L'être humain de base, c'est censé être un homme, quoi. Nous, en tant que femmes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte. Déjà, il faut bien avoir en tête que le premier facteur de santé publique, Le premier déterminant de santé, c'est est-ce qu'on a subi ou non des violences, en particulier des violences sexuelles au cours de sa vie, et plus encore des violences sexuelles dans l'enfance. Or, on sait que c'est une fille sur 5 et un garçon sur 13 qui subissent des violences, et notamment des violences sexuelles. Donc, c'est une énorme partie de la population. Là, on en parle un peu plus avec les MeToo incestes. Et donc, ça signifie que est-ce que vous êtes en bonne santé ou pas à 50 ans, avant le déterminisme biologique de est-ce que dans votre famille, il y a telle ou telle pathologie, avant tout ça, ça va être les violences. Et donc, ça se voit de plein de manières différentes. On a des cancers qui sont dus aux violences. Les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus, par exemple, peuvent être directement liés aux violences. On va avoir aussi des facteurs de santé mentale. Le fait que les femmes sont davantage en dépression, prennent davantage d'anxiolytiques. Tout ce qui est aussi les addictions, la première cause des addictions, ce sont les violences, en particulier les violences sexuelles. Donc tout ce qui est alcoolisme, addiction aux drogues, ou à des conduites dangereuses. Donc ça, c'est aussi directement en lien avec les violences. Les suicides également. Évidemment, l'anorexie qui touche de manière très disproportionnée les filles et non les garçons. Et c'est une des conséquences des violences sexuelles qu'on a subies, qui sont d'ailleurs pas forcément... les personnes anorexiques sont pas forcément par tous les professionnels de santé... interroger là-dessus et aider là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes anorexiques qui vont faire tout un parcours très compliqué de soins pour trouver enfin une soignante ou un soignant qui ne serait-ce que pose la question « Avez-vous subi des violences ?» alors que c'est le premier facteur d'anorexie. Et ce facteur d'anorexie, en plus, qui s'aggrave avec les dictats de beauté qui pèsent sur les femmes, dont on pourra parler ensuite, mais qui encourage en fait les femmes à être les plus minces possibles dans cette société, avec tout un climat de grossophobie qui s'applique pour tout le monde, mais particulièrement de manière exacerbée sur les femmes. Et donc toutes ces conséquences des violences qui sont subies davantage par les femmes en patriarcat, puisque en extraordinaire majorité, ce sont les hommes qui commettent des violences en majorité contre des femmes. Aussi contre les petits garçons, mais en majorité contre les femmes et les filles, il va y avoir une errance médicale du côté des femmes. Ça va être très long, comme je disais tout à l'heure, de trouver les professionnels de santé qui vont savoir poser les bonnes questions, qui vont savoir accompagner correctement, ne pas pathologiser autrement. Il y a des personnes qui vont être diagnostiquées, par exemple, bipolaires, en fait, ça, c'est des vraies maladies, et parfois, ce n'est pas le cas. En fait, on va pathologiser les femmes en trouvant des maladies pour refuser de voir d'où vient le problème, c'est-à-dire la violence masculine, en particulier les violences sexuelles. Et donc cette errance médicale fait qu'on perd beaucoup de temps à pouvoir aller mieux, à pouvoir se soigner, notamment de tous les mécanismes de la mémoire traumatique. Donc la mémoire traumatique, c'est ce que... l'extrême majorité des victimes de violences sexuelles ont. C'est-à-dire que là, je vous encourage à aller voir sur le site mémoiretraumatique.org, mené par les recherches de la psychiatre et psychotraumatologue Muriel Salmona, et qui donc explique bien ce phénomène où, pour survivre dans un moment de risque mortel, donc comme un viol, donc une violence très 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 grave, et qui en plus dure dans le temps, qui dure plusieurs minutes, comme il y a un risque de mort imminente sur le corps, un risque que le cœur s'emballe et donc que l'organisme lâche, le cerveau va mettre en place un mécanisme de survie, qui est la dissociation traumatique, et donc le cerveau va comme disjoncter, se couper du reste du corps. C'est pour ça que beaucoup de victimes disent avoir l'impression de... Lorsqu'elles repensent aux violences sexuelles qu'elles ont subies, elles vont avoir l'impression de flotter au-dessus du corps, de se voir comme de l'extérieur. Que beaucoup disent « je ne me souviens plus bien », qu'on a des problèmes de chronologie dans le temps. D'autres qui disent « je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler ». Ça, c'est la sidération traumatique. Et donc, en fait, ces mécanismes-là vont faire que le souvenir des violences va rester coincé et ne va pas pouvoir s'assimiler dans la mémoire courante. Ils vont rester coincés à un endroit précis du cerveau. Et donc, c'est ça qui va faire ensuite qu'on vit avec une mémoire traumatique. Et donc, je donne un exemple. Si par exemple, on a subi des violences un jour où il faisait très, très beau, eh bien, le fait de sortir quand il fait beau, devient insupportable parce que ça fait comme marcher sur une mine traumatique et on revit presque à l'identique la douleur, les violences, la sensation de panique, de peur imminente, l'incompréhension. Même des fois, on peut entendre les sons, ressentir les odeurs, etc. Enfin, c'est très précis parce que le souvenir n'a pas pu s'évacuer normalement. Et donc, tout ça, ça se soigne, mais ça se soigne avec des professionnels de santé réellement formés sur ces questions de mémoire traumatique et réellement féministes, du coup. Et malheureusement, il n'y en a pas assez. Mais ça, par exemple, c'est le quotidien d'énormément de femmes de vivre avec une mémoire traumatique en réalité. Pas que des femmes, mais surtout, puisque dans cette société, encore une fois, c'est elles qui subissent le plus de violences de la part des hommes. Et donc c'est un facteur très important de différence. Et ensuite, bien sûr, on peut évoquer les pathologies qui sont moins diagnostiquées chez les femmes, puisqu'on va considérer que c'est des pathologies masculines, comme par exemple les maladies cardiovasculaires. Il y a beaucoup de femmes qui viennent consulter pour des symptômes de maladies cardiovasculaires. Si elles avaient été des hommes, on leur aurait prescrit des traitements pour ces maladies. Comme elles sont des femmes, les professionnels non formés vont avoir tendance, par préjugé en fait, à se dire ce cœur qui s'emballe et tout ça, c'est pas des maladies cardiovasculaires, c'est du stress, c'est de la somatisation, donc je vais lui donner des antidépresseurs. Et il y a plein de femmes qui, du coup, décèdent de maladies cardiovasculaires ou passent près de la mort parce qu'en fait, elles n'ont pas été traitées pour des pathologies et qu'on a projeté sur elles que juste elles étaient déprimées. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Et enfin, il y a les pathologies qui ne touchent que les femmes, comme par exemple l'endométriose.
Justement, donc on parle des violences sexistes, sexuelles qui influent et qui ont évidemment un impact sur notre santé physique et psychologique. Et on sait qu'il y a aussi d'autres types de violences, et je pense notamment aux violences gynécologiques et obstétricales, qui, pour le coup, des femmes qui tentent d'accéder à la santé, à des soins, subissent des violences dans ce cadre-là, donc dans un cadre qui devrait être de confiance face à des professionnels qui sont là pour les aider. Donc, est-ce que vous avez, par exemple, des chiffres qui illustre un peu ces violences et effectivement après on pourrait reparler un peu des questions de santé, de pathologies qui touchent les femmes en particulier comme l'endométriose et qui sont très peu diagnostiquées.
Oui, alors sur les violences gynécologiques et obstétricales, il y avait le Haut Conseil à l'égalité qui avait sorti un rapport là-dessus il y a 2 ans qui est passionnant, qu'on peut trouver en ligne sur le site du Haut Conseil à l'égalité. Qui s'appelle violence gynécologique obstétricale. Et oui, c'est un sujet dont on commence seulement à parler depuis quelques années, qui a été beaucoup mis sous le tapis, avec des femmes qui vont subir des pénétrations non désirées de la part de praticiens, et non désirées et surtout non prévenues, non consenties, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, par exemple, ou au cours de contrôle gynécologique, introduction de spéculum sans prévenir, de manière violente, ou quand les femmes disent qu'elles ont mal, on leur dit « mais c'est normal ». Non, ça n'est pas normal d'avoir mal chez la gynéco, ça n'est pas normal. Ça va être aussi, pour donner un exemple, par exemple en France, alors les chiffres que j'ai doivent dater d'il y a peut-être 4 ans, un truc comme ça. Mais donc, dans la majorité des hôpitaux français, avec une exception pour Besançon, je crois, les taux d'épisiotomie sont très élevés. On a l'épisiotomie, c'est le fait d'ouvrir l'orifice vaginal pour que, sous le prétexte que l'enfant sorte mieux. Il faut savoir que cette épisiotomie, elle donne lieu à des choses graves, puisque pendant très longtemps, on n'a pas été fichu de nous dire qu'on avait un clitoris. Les femmes n'étaient pas au courant qu'il y avait une partie interne de leur clitoris. On pourra revenir là-dessus sur la question du clitoris parce que c'est très important. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est déjà arrivé que des praticiens sectionnent une des racines du clitoris. Donc c'est une excision, c'est extrêmement douloureuse et irréversible pendant une épisiotomie. Enfin, je veux dire, c'est des choses. Et donc, en France, on a 57% d'épisiotomie. En Suède, on en a 3%. Et il y a le même taux de déchirures graves. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on nous dit, les épisiotomies ne protègent pas des déchirures graves, puisque quand on ne les fait pas, on a le même taux. Et donc, c'est en fait toute une médecine qui va totalement nier déjà que les patientes et les patients existent d'une manière générale. Trop souvent, on a ce truc-là où les patientes vont dire « on parlait de moi à la troisième personne alors que j'étais là », etc. Mais particulièrement pour les femmes, un dédain complet sur le fait qu'elles puissent avoir mal, etc. Et ça a en lien aussi cette place toute puissante du médecin. Et d'ailleurs, toute la gynécologie a été faite pour que ce soit pratique pour le médecin de pouvoir pratiquer sur ses patientes et pas des choses logiques pour pouvoir accoucher. On a besoin de la gravité, par exemple. Et la position pour accoucher traditionnelle aujourd'hui, elle est pas du tout évidente, ni pour la mère, ni pour l'enfant. Elle est pratique pour le médecin. Et donc, il y a énormément comme ça de sujets. Alors après, moi, je suis pas praticienne de santé. Ce serait intéressant d'en parler à une sage-femme, par exemple. Mais ces maltraitances gynécologiques obstétricales, elles ont aussi un lien avec le détricotage du service public, le fait que les professions médicales, à l'exception des médecins, sont davantage... sont très 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 dévalorisées à la fois financièrement, à la fois socialement, les infirmières, je mets à la féminine parce qu'elles sont une extraordinaire majorité, les sages-femmes, en fait sont dans des conditions de sous-effectifs, de stress et de maltraitance, de surmenage, en particulier en ce moment, mais d'une manière générale, qui fait que ça augmente les violences gynécologiques et obstétricales. Donc c'est un énorme sujet. Et pour revenir sur l'endométriose, donc l'endométriose, moi, c'est typiquement un mot que j'ai entendu pour la première fois. Il doit y avoir, 5 ans, alors que ça fait une douzaine d'années que je suis dans le mouvement féministe. Moi, quand j'étais jeune, on n'en parlait pas du tout. Il y a plusieurs associations qui existent sur la question. Endo-France, par exemple. Là, j'ai les chiffres sous les yeux. Donc, on a 80% des femmes qui souffrent de règles douloureuses. Donc, ça, c'est d'une manière générale. Donc, vous prenez 10 femmes, il y en a 8. Une fois par mois, on très mal au ventre, au dos, à la tête, enfin voilà, c'est différentes pathologies. Ça, quelque chose me dit que si les hommes avaient leur menstruation, ça ferait longtemps qu'on saurait soigner ces douleurs-là. Ensuite, de 10 à 20% d'entre elles qui sont en âge de procréer sont atteintes d'endométriose. Donc c'est énorme. Sur 10 femmes, cette maladie qui est grave et qui est extrêmement handicapante et douloureuse, qui peut mener à devenir stérile, si elle n'est pas prise en charge, etc. Il y en a une à deux qui sont atteintes d'endométriose. Donc, entre 2,1 et 4,2 millions de Françaises sont concernées. 25 à 40% d'entre elles souffrent pendant les rapports sexuels. 95 milliards d'euros par an en France, c'est les coûts médicaux. Et la perte en productivité puisque les femmes ne sont pas diagnostiquées et aussi parce que du coup elles ont des arrêts de travail, etc. De 30 à 40% des femmes qui souffrent d'endométriose ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc l'endométriose, c'est 11 heures par semaine de temps perdu au travail pour absentéisme ou efficacité réduite. Et donc lorsqu'on nous dit, quand on est adolescente et qu'on dit qu'on a mal pendant les menstruations, moi c'est des choses que j'ai entendues. On nous dit, mais c'est normal, t'es une femme, c'est normal. Alors, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour avoir ses règles, il faut souffrir, tout est normal. Et c'est marrant parce que les mecs, eux, quand ils ont mal, on s'en occupe. Nous, c'est logique, en fait. Et non, ça n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Ça n'est pas normal et il y a une longue errance. Et donc, j'avais déjà lu qu'en moyenne, les patientes atteintes d'endométriose mettent 7 ans à trouver, à être diagnostiquées. Donc, il y a une vraie errance médicale, encore une fois. Et encore, c'est 7 ans maintenant, parce que autant vous dire qu'il y a 20 ans, l'endométriose n'est pas de diagnostic, hein, c'est réglé. Donc c'est vraiment terrible, en fait, dans quelle société on est, où à la fois pendant la grossesse, à la fois pendant l'accouchement, à la fois pendant nos menstruations, en permanence, on va nous dire « Oh, c'est un peu chochotte, pas si grave ». Et en fait, il faudrait prendre soin d'apaiser la douleur des femmes, au même titre qu'on prend soin d'appeler celle des hommes.
D'où l'intérêt de ce genre d'émission de sensibilisation. Donc si je résume, on a donc des violences subies dans l'enfance ou même plus tard tout au long de la vie. On a une désinformation, un manque d'information sur le corps des femmes, son fonctionnement, etc. et des stéréotypes aussi, des idées reçues sur, là encore, les hommes et les femmes. Et on peut peut-être parler un peu des dictats justement de beauté qui touchent quand même en grande majorité surtout les femmes et qui mettent à mal notre santé. Même nos rapports ensuite intimes, nos relations avec les autres. Donc oui, qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait parler par exemple de l'anorexie, t'en as parlé déjà un peu. L'excision, on en a parlé aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter là-dessus?
Oui, alors j'ai évoqué l'excision dans le cas de l'épisiotomie, où là c'est couper une racine interne du clito. Déjà, ce qu'on peut dire, alors du coup ça sort un peu des dictates de beauté, mais rapidement, c'est que le clitoris est un organe encore beaucoup trop méconnu. Alors, juste dans ce qu'il s'agit de le connaître dans ses fonctions de plaisir. Donc, c'est le seul organe du corps humain qui ne contribue qu'au plaisir. Hein. Ces messieurs font pipi avec leur pénis, hein, ça leur sert à différents trucs. Nous, on a un organe que pour le plaisir, qui a beaucoup plus de terminaisons nerveuses et qui est beaucoup plus érectile et puissant, en fait, en termes de force de plaisir, que ne l'est le pénis. Et donc, cet organe-là a à la fois un gland qui est plus ou moins immergé, qui est plus ou moins externe, selon la morphologie des femmes. Et puis, il a des racines internes et des corps spongieux qui, en fait, mesurent entre 11 à 13 cm. Donc, ça veut dire que pour les femmes ou les jeunes femmes qui nous écoutent, souvent, on en a une plus grosse que monsieur, en fait, qui est rectile. Donc qui avec le plaisir se gorge de sang, pareil, et qui donc est un organe très intéressant. Et alors la première fois qu'on a fait, qu'on a donné du budget à des chercheuses pour faire une échographie officielle du clitoris et sortir des papiers dessus, c'était en 1998 en Australie. Autant vous dire que 1998 c'est un peu loin pour commencer à parler concrètement du clitoris dans sa partie interne notamment. Et donc, moi, c'est un mot clitoris que j'ai entendu pour la première fois. Je suis pas la fille, je suis née en 1986. La première fois que j'ai entendu clitoris, c'est parce que j'étais déjà féministe, à l'âge féminisme, et donc j'avais déjà 22 ans. Ça, c'est la première fois où on m'en a parlé. Pourtant, j'ai été au collège, au lycée, dans un cursus général, j'ai fait de la SVT. Eh bien, en fait, on a été excisé culturellement. Enfin, c'est pas pour faire un parallèle avec l'excision que subissent énormément de femmes dans le monde, où là, comme par hasard, quand il s'agit de nous mutiler, ils savent très bien où est le clitoris et sa puissance, puisqu'il y a vraiment une haine des sexes des femmes et il y a différentes techniques de mutilation génitale féminine, mais donc notamment l'ablation du gland du clitoris, extrêmement douloureuse, où énormément de petites filles meurent à cause de ça. Et ensuite, les femmes sont extrêmement traumatisées et ont un accès au plaisir plus difficile. C'est d'ailleurs pour ça que c'est fait. Mais en tout cas, nous, on subit une autre forme de négation du clitoris, dans le sens où on ne va pas apprendre qu'il est là. Sauf que le cerveau fabrique des terminations nerveuses en fonction des organes qu'on sait qu'on a. L'inverse de ça, par exemple, c'est les personnes qui vont être amputées d'un membre et quand même continuer à le sentir, ce membre, dans le cerveau, en fait, à continuer à le sentir et même à sentir de la douleur. Et en fait, c'est parce que le cerveau a pris l'habitude que ce membre existe. Et bien là, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que comme on ne sait pas qu'on a un clitoris, que d'une manière générale, on nous dit que notre sexe de femme, il n'y a rien, que les garçons ont un zizi et nous, on n'a rien. Alors que non, on a une vulve qui est composée de grandes lèvres et de petites lèvres, qui d'ailleurs régulièrement sont les plus grandes, hein, en fait. Les lèvres internes, donc on appelle à tort petites lèvres, sont très très innervées aussi, et aussi des grands organes de plaisir. Et d'ailleurs, à cause de la pornographie, donc de cet outil qu'ont les hommes pour érotiser les violences sexuelles, eh bien la pornographie donne une image des corps des femmes aseptisée, très particulière, et donc dans les dictates de beauté qu'on évoquait tout à l'heure, il y a notamment le diktat de soi-disant la vulve parfaite, qui en fait est une vulve de petite fille. Donc déjà, elle n'a pas de pilosité, donc en fait c'est pédocriminel. C'est normal d'avoir de la pilosité en fait, et ça sert à quelque chose la pilosité. Le fait de s'enlever les poils où que ce soit, c'est une forme de mutilation. Attention, je ne dis pas ça pour un jugement pour les femmes qui le font. Je comprends tout à fait toutes les choses qui forcent les femmes à détester leurs poils, même des féministes très aguerries que je connais, que j'aime, avec qui je milite, laissent pousser leurs poils, mais arrivent toujours pas à les regarder. Je veux dire, c'est long comme réappropriation, donc je ne suis pas en train de juger celle qui s'épile. Pas du tout, parce que je comprends toutes les contraintes qu'on a à le faire et le dégoût qu'on développe sur nos poils, etc. Néanmoins, ils sont là pour une raison. Ils sont là pour éviter les frottements. Ils sont là pour éviter que s'introduisent des bactéries, donc la diffusion des mycoses. Et donc, enlever ces poils, que ce soit à l'entrejambe, sur le sexe ou sous les bras, ou même sur les jambes, en fait, c'est à la fois coûteux pour le porte-monnaie, douloureux pour le corps, humiliant pour l'esprit et mauvais pour la santé. Donc, en fait, c'est une absurdité. Et si les poils de ces messieurs dérangent personne, on ne voit pas pourquoi les poils de ces mesdames dérangeraient. Eh bien, une autre chose qu'on a au niveau des diktats de la beauté dans la pornographie, ce serait d'avoir des lèvres internes qui, effectivement, seraient petites et qui rentreraient dans les lèvres externes, totalement épilées, donc. Et donc, il y a des femmes qui vont faire des labioplasties. C'est tragique. Donc, ils se font mutiler à cause de conjoints violents et de violences sexuelles. Hein, je veux dire, on n'en arrive pas là par hasard. Hein. À mon sens, les chirurgiens qui commettent ces actes devraient être punis par la loi, en fait, pour mutilation génitale irréversible. Et donc, on leur rabote une partie des lèvres internes pour qu'elles ne dépassent pas, parce que ces lèvres-là étaient extrêmement innervées, servaient au plaisir et en plus à la protection de la flore vaginale. Donc c'est vraiment terrible. Nous, on a grandi avec ce rien, soi-disant. On n'a pas de vulve, on n'a pas de lèvres, on n'a pas de clitoris. On nous raconte que tout ça, c'est sale. Et donc, en fait, les terminaisons nerveuses que doit faire le cerveau avec un organe qui existe ne peuvent pas se faire correctement. C'est-à-dire qu'on n'imagine même pas à quel niveau de contrôle de notre corps et de contrôle de plaisir on arriverait si on pouvait grandir en sachant qu'on a un clitoris, en le découvrant soi-même dans la douceur quand on est petite, etc., en sachant que c'est pas sale, qu'au contraire, c'est merveilleux, que c'est une fierté, que c'est génial d'être soi-même, qu'on peut l'aimer, etc., qu'on peut se faire du bien. La puissance de nos sensations, si on n'avait pas été coupé, excisé culturellement de toute notre sphère génitale et en particulier du clitoris, je pense que les femmes n'en ont même pas idée. Et que ça met beaucoup de temps de récupérer ce savoir-là et ces sensations-là. Et donc, c'est vraiment, en termes d'accès de santé, et donc qui touche à la sexualité, on a vraiment deux mondes. Le monde des femmes et le monde des hommes, c'est pas le même en termes de sexualité. On peut parler aussi en termes de chirurgie esthétique et de haine de soi, évidemment, toutes ces choses de régime qui peuvent mener à l'anorexie. Faut savoir que le diktat de la maigreur, il est récent, en fait, puisque déjà, c'est toujours les diktats des classes dominantes. Donc, tant que tous les pauvres n'avaient pas à bouffer, et qu'il y avait que les riches qui pouvaient manger beaucoup, c'était la mode d'être très ronde. Et on trouvait ça magnifique d'être très ronde et complètement laid d'être mince. Là, maintenant, ça a changé, puisqu'il y a la malbouffe pour la majorité de la population, donc de l'obésité davantage chez les personnes précarisées. Et c'est chez les personnes bourges qu'on peut se faire justement liposucer, je sais pas quoi, et avoir accès à de la bonne nourriture, machin, et des régimes, et ces trucs Club Med. Et donc forcément, là, d'un coup, ça devient la mode d'être comme les riches, donc mince. Et en fait, ce système-là s'applique davantage aux femmes, hein, parce que autant, moi je suis actrice quand même, donc il y a d'autant plus des dictats de beauté lorsqu'on est comédienne. On nous dit très vite qu'il faut être très maigre. On nous dit très vite qu'il faut être très jeune, parce qu'après on sera périmé, alors que Gérard Depardieu, hein, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce truc-là, lui il peut jouer encore même des rôles absurdes de limite jeune premier qui sortent avec des gamines. Enfin, ça, c'est hallucinant, quoi. Lui, on lui a jamais dit, dis donc, tournez, tu vas te le faire refaire rapido, alors que ça part dans tous les sens. Non, ça, c'est, voilà. Donc on a quand même des dictats très différents pour les femmes et les hommes. Et puis surtout, les hommes, ça va être... C'est bien si vous avez des muscles, bon, avec dérogation, encore une fois, Gérard Depardieu, mais et puis les femmes, si vous êtes très très minces, très très maigres. Mais du coup, vous voyez bien que dans un rapport de domination où c'est davantage les hommes qui vont frapper les femmes, ça ne va pas les aider à savoir se défendre. Et donc donc ça c'est le système du genre, hein, qui va calquer sur des différences biologiques, génitales, d'avoir tel ou tel sexe biologique. Des comportements et des choses qui sont attendues de nous. Et quand on est une femme, ce qui est attendu de nous, c'est de disparaître au maximum de l'espace public. Et c'est aussi ça, cette maigreur. il faut qu'on soit les plus minces possibles pour être les plus faibles possibles, donc les plus facilement violentables physiquement et les plus invisibles dans l'espace public. Et si on regarde, bah oui, un Gérard Depardieu qui débarque sur la scène des Césars ou je sais pas quoi, bah il prend de la place, on le voit. Lorsqu'on est toute maigre, c'est pas exactement le même système, quoi. Et donc, en fait, faut bien penser que les diktats de beauté, ils sont à la fois délétères pour la santé des femmes, mais aussi ils ont tout à voir avec l'oppression patriarcale et nous cantonnent en permanence dans une situation d'objet, de désir, d'objet sexuel pour ces messieurs, et on n'est pas sujet. Enfin voilà, c'est pour ça aussi. Que les dictats de beauté sont délétères, c'est qu'ils ne sont pas dirigés pour nous, ils sont dirigés vers les dominants, et en patriarcat, les dominants, c'est la caste des hommes. Et je finirai juste pour parler aussi d'une part de la santé qui touche davantage les femmes, c'est-à-dire l'avortement. L'avortement, on a l'impression que c'est un droit, que c'est acquis, mais on voit bien que ce droit est contesté dans plein de pays du monde. Aujourd'hui en France, c'est difficile d'avorter, encore plus en période de Covid. Les centres d'avortement disparaissent les uns après les autres. Souvent, ils sont collés à la maternité pour bien faire culpabiliser. Il y a un temps encore de réflexion, on se demande pourquoi il est là, alors qu'il n'y a absolument pas, par contre, de temps de réflexion avant une labioplastie obligatoire, alors que là, pour le coup, ça vaudrait le coup de réfléchir un peu. Donc voilà, il y a encore, quand on tape avortement, dans les premiers moteurs de recherche, régulièrement, il y a des réactionnaires intégristes catholiques le plus souvent qui font remonter des sites de désinformation, qui vont dire que si on avorte, eh ben, monsieur va forcément nous abandonner, nous quitter. Là, on a envie de dire qu'il se barre, ça nous fera des vacances. Et puis par ailleurs que peut-être on va devenir stérile si on avorte, et puis que c'est un drame dont on ne se remettra jamais. Enfin, je pense que c'est un drame dont on ne se remet jamais d'avoir un enfant au moment où c'est pas voulu. Et donc ça, typiquement, ça pèse, cette charge mentale de l'avortement, elle pèse que sur les femmes. Et du coup, la charge de la contraception pèse aussi sur les femmes, à la fois en termes de qui prend la pilule ou des hormones, et donc c'est mauvais pour la santé, mais en termes aussi de qui a cette charge mentale, parce que qui risque concrètement de tomber enceinte, quoi. Et évidemment, c'est pas ces messieurs. Et puis, l'inverse de ça, c'est la PMA, donc la procréation médicalement assistée pour les femmes en couple avec une femme ou célibataire. C'est-à-dire que d'un côté, on va essayer de contraindre les femmes à enfanter même quand elles ne le veulent pas. Et d'un autre côté, on va les empêcher d'enfanter même quand elles le veulent. Et ça, c'est aussi une façon de contrôler le corps des femmes.
Bah, merci beaucoup, Tiffendé, pour cette intervention et tous ces sujets abordés.
Merci à vous de m'avoir invité. Je voudrais juste, donc j'ai parlé du numéro du CFCV au début et de l'AVFT qu'on peut aussi appeler lorsqu'on rencontre des violences dans le monde du travail. Je voudrais aussi conseiller par rapport à la question de la sexualité et du rapport au corps, le site lancé par Osif Féminisme, Les Frangines, qui s'adresse notamment aux jeunes femmes, aux ados, aux mêmes grandes enfantes, mais aussi aux adultes. On apprend aussi plein de choses et qui est très bien fait et dont on peut s'inspirer aussi pour parler de ces questions-là quand on est une adulte en charge d'éduquer d'une manière ou d'une autre des jeunes femmes. Et puis je vous conseille aussi mon livre Compte à rebours.
Ah bah oui.
Que ça.
On le conseille. Toutes et tous.
Oui, mais Compte à rebours est un livre qu'on peut trouver, qu'on peut commander en ligne. Donc c'est le texte de ma pièce de théâtre, même si c'est très différent ce qui se passe sur scène et dans le livre. Et puis je joue donc régulièrement en tournée, au moins pour les scolaires, puisqu'on a le droit de faire ça en ce moment, mais aussi en ligne.